Votre nez ne vous convient pas, vous avez des cheveux trop fins, votre poids est une obsession. Bon, on a tous des parties, voire des fois l'entier du physique, qui ne nous conviennent pas.
Oui, mais alors attention, lorsque ça vire à l'obsession, ça peut être dangereux. C'est ce que l'on appelle la dysmorphophobie.
Pour en parler, nous recevons ce matin Laurent Holzer, médecin-chef au CHUV, pédopsychiatre en charge de plusieurs unités de soins. Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment est-ce qu'on peut définir plus précisément la dysmorphophobie ?
Alors, comme son nom l'indique, par son étymologie, c'est la crainte ou la peur d'être difforme ou laid, en quelque sorte. Mais c'est un symptôme qui appartient à différents, qu'on retrouve dans différents tableaux psychopathologiques.
Finalement, on a tous une autre vision de soi-même. Il y a chez des personnes, donc, chez qui ça peut être plus prononcé. Il y a des personnes qui n'y prennent pas garde. Il y a des personnes chez qui ça peut être excessif.
Oui, bien sûr. Enfin, ça s'étend certainement sur un continuum de jeunes filles qui ne sont pas satisfaites de leur corps, de l'image d'elles-mêmes qu'elles renvoient, qui peut aller du léger surpoids, certains qui vont faire des fixations sur leur nez ou parfois une autre partie de leur corps qui leur semble disgracieuse. Donc c'est vrai que certains peuvent s'accepter comme ils sont sans difficulté et d'autres veulent atteindre un idéal qui est très contraignant et auquel ils vont se mesurer en permanence et en souffrir.
Alors que ce n'est pas forcément des choses que l'entourage va remarquer. Une personne peut être obsédée par son poids ou par son nez, alors que pour tout son entourage, elle a un nez tout à fait adorable, et puis peut-être un ou deux kilos trop, mais rien de dramatique. C'est une vision qui est vraiment
perdue. C'est vrai que c'est tout à fait, parfois c'est complet, enfin on va dire que c'est hors de la réalité, puisque, ou du jugement commun, c'est l'adolescent qui se perçoit de cette manière, enfin, qui se fixe ou qui se trouve difforme ou hideux, alors que c'est pas la réalité commune partagée par son entourage et ses proches, oui.
Cette obsession, elle va se traduire comment ? Ça sera vraiment... Alors, la partie du corps que la personne ne va pas aimer va être vraiment l'obsession générale. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à ne plus sortir de chez soi ? Jusqu'à se faire du mal ?
Alors, certains, jusqu'à consulter des chirurgiens plastiques pour se refaire faire le nombril qu'ils peuvent juger trop proéminent, à d'autres qui, effectivement, estiment que, compte tenu de leur apparence, il n'est pas possible pour eux de sortir, de rencontrer du monde, que c'est inenvisageable. Donc, ça peut devenir très handicapant, oui.
Justement, et dangereux, est-ce que c'est une obsession qui peut devenir dangereuse ?
L'obsession en soi dangereuse, c'est-à-dire à partir du moment où elle entraîne une mésestime de soi, une dépression jusqu'à des idées suicidaires, c'est vrai que ça peut devenir dangereux pour ceux qui imaginent que la vie ne vaut d'être vécue, que si on est parfait, d'apparence physique optimale, ça peut devenir dangereux.
Comment est-ce qu'on va reconnaître quelqu'un qui est vraiment atteint de dysmorphophobie de quelqu'un qui a simplement un souci avec ses petites poignées d'amour ou un nez trop épaté ?
Alors, on va le reconnaître dans l'impact que ça a sur son fonctionnement au quotidien, si c'est des préoccupations justement qui l'empêchent de sortir, qui contribuent à le déprimer, à perturber son attention, sa concentration, ses résultats scolaires. Donc, c'est l'impact sur son fonctionnement qui permettra de déterminer, de différencier une dysmorphophobie qui rentre dans le registre du pathologique, simplement une attention à son image corporelle que tout un chacun peut avoir.
Quelles sont les obsessions courantes ? Est-ce que ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, principalement le poids, le nez, des parties du corps visibles, ou est-ce que ça va même parfois jusqu'à des endroits qu'on ne verra jamais, qui peuvent étonner ? Ça traduit finalement un mal plus profond.
Alors généralement, le corps est visible, alors pas toujours dans sa nudité pour tout le monde, mais disons que en général, cette dysmorphophobie, c'est quand même sur l'apparence. J'ai pas connaissance de dysmorphophobie à propos d'organes internes.
Je n'aime pas du tout mes reins.
Ah oui, c'est... certains peuvent se poser des questions sur leur fonctionnement, sur le positionnement de leurs organes de manière délirante, mais sinon c'est quand même sur ce qui est donné à voir. Donc c'est vrai que la plupart du temps c'est sur la silhouette, les hanches, les formes, alors le nez qui se voit au milieu du visage, qui peut être l'objet de pas mal de fixations, mais parfois ça peut, comme je vous le disais, ça peut être le nombril. Où une jeune fille a été très préoccupée par son nombril et réussi quand même à trouver un chirurgien qui l'a opéré de son nombril, mais qui était que le début d'autres complications, puisque ça s'est pas arrêté au nombril après les préoccupations. C'était sur le fonctionnement ensuite de tout le reste de son système digestif. Donc c'est, alors chaque cas est individuel et puis c'est difficile de faire des généralités, mais c'est vrai que certains sont en mal avec leur identité, ont des difficultés à s'y retrouver, à se reconnaître. Et donc la dysmorphophobie permet parfois de fixer ce mal-être identitaire sur quelque chose de palpable ou de qui explique un mal-être plus profond.
Est-ce que de ce fait-là, l'anorexie, par exemple, est l'une des conséquences possibles de la dysmorphophobie ?
Alors, oui, si on part du principe que l'anorexique va se considérer comme grosse alors qu'à l'évidence elle est maigre, et qu'il y a un mécanisme de cet ordre, et que l'anorexie est une réponse à un trouble de l'image du corps, une forme de volonté d'avoir une apparence physique idéale, et puis ensuite la restriction alimentaire va entraîner dans un cercle vicieux des préoccupations autour de la nourriture, de l'apparence physique, besoin de faire aussi de l'exercice physique, et que tout ça va finir par s'entretenir, et puis avec un risque justement que la situation évolue vers une anorexie qui est une pathologie psychiatrique sévère avec un taux de mortalité qui est parmi les plus élevés au sein des pathologies psychiatriques, donc quelque chose effectivement de très préoccupant.
Jusqu'à 9h, format A3.
La dysmorphophobie, c'est peut-être un mot que vous avez appris aujourd'hui, c'est surtout le thème que nous abordons ce matin.
Et nous sommes avec le docteur Laurent Holzer, médecin-chef au CHUV, pédopsychiatre en charge de différentes unités de soins.
Alors Laurent Holzer, cette obsession, la dysmorphophobie, elle existe de la même manière depuis toujours, elle est en augmentation, est-ce qu'elle est accentuée par exemple par les magazines de mode, les réseaux sociaux, Photoshop ?
Alors certainement qu'elle a une composante culturelle et puis que la vogue actuelle ou les magazines, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui est donné à voir de l'image parfaite du corps jeune, séduisant, contribue à poser un idéal certainement plus haut qu'il n'existait à l'Antiquité. Mais encore une fois, je pense que chaque époque a ses standards aussi et qui peut générer des questions par rapport à l'apparence. Mais là, je pense que c'est magnifié, c'est démultiplié avec l'omniprésence des images sur les smartphones, sur les tablettes, enfin partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper.
Est-ce que ça ne concerne que les jeunes, les ados, les jeunes adultes, ou est-ce que finalement on peut aussi avoir des personnes qui connaissent certains de ces troubles plus tard dans leur existence ?
Alors ça n'est pas réservé aux seuls adolescents, mais certainement ceux-là sont plus vulnérables, hein, puisque c'est au moment où ils se constituent leur identité, et puis que leur apparence est quelque chose de très important à cette période de la vie. Mais bien sûr que certains plus jeunes, ou même enfin surtout plus âgés, peuvent avoir les mêmes préoccupations, ou elles peuvent perdurer au cours de la vie. Et puis probablement que l'adolescence telle qu'elle s'est déroulée pour chacun d'entre nous, par rapport à l'image qu'on avait aussi par rapport aux autres, pourra influencer par la suite ces préoccupations autour de l'apparence.
Est-ce que dans votre pratique, docteur, vous constatez que les patients qui viennent vous consulter sont de plus en plus jeunes ?
Alors, ils ne viennent pas directement nous consulter pour une dysmorphophobie. C'est un peu plus tard, quand les conséquences sur l'humeur ou sur le poids et une pathologie mentale survient. Donc, c'est on mentionne qu'effectivement pour les troubles du comportement alimentaire que l'âge au moment du début là se rajeunit et que probablement là aussi l'image auquel déjà les préadolescents peuvent avoir accès à travers les médias et les réseaux sociaux sur lesquels ils peuvent, même si c'est pas autorisé quand même, ou en tout cas s'y intéresser, donc pourrait des troubles, en particulier des troubles du comportement alimentaire.
Est-ce que ça veut dire aussi que notre époque crée des dysmorphophobiques? Est-ce que, au lieu de justement, il faut évidemment soigner les personnes atteintes de dysmorphophobie, mais est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer à la source et justement faire en sorte que les réseaux sociaux, les magazines ne soient plus dans cette recherche de la perfection?
Oui, bien sûr. Les Espagnols avaient dicté des lois pour les défilés de mannequins qui devaient avoir un BMI supérieur à 19. Je ne suis pas sûr que ce soit des lois qui soient respectées, mais bien sûr qu'un certain nombre d'initiatives visent à sensibiliser dans les écoles les jeunes à la question de l'apparence physique et d'un certain mythe et de comment aussi ce qui nous est présenté provient de retouches avec Photoshop, et puis que tout ça c'est quand même un mythe qui est constitué par les médias, par toute une société qui pour faire vendre ou pour donner des modèles montre un idéal difficilement atteignable.
La dysmorphophobie, ça se soigne, on en guérit?
Alors, c'est bien sûr qu'on peut en guérir et puis que ça se soigne. Maintenant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas simplement par la réassurance, non, tu es parfaite, non, ton nez est absolument magnifique. C'est pas simplement par cette réassurance, mais c'est plutôt en essayant de décaler, de décentrer les objectifs d'une vie, d'atteindre une estime de soi qui passe par autre chose qu'uniquement l'apparence physique. Et que ça, c'est tout un travail pour que un enfant, puis un adolescent, puisse être aussi valorisé dans tous les autres aspects qu'il peut développer de son intelligence, de ses capacités relationnelles, de sa socialisation, donc de plein d'autres choses qui s'écartent uniquement de la question de l'apparence.